Le goût d'entreprendre. Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous, nous recevons une personnalité qui veille sur notre santé dans le goût d'entreprendre. Dominique Pont est le directeur de la clinique Pasteur à Toulouse, la deuxième clinique de France. Mais Dominique Pont n'est pas seulement directeur de la clinique, c'est aussi un entrepreneur visionnaire, humaniste. Il vient de lancer Eternesia, il se bat pour que la mémoire de chacun d'entre nous soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour que l'on puisse laisser une trace de notre histoire personnelle. Nous allons l'entendre, c'est une petite révolution. Depuis 15 ans au sein de la clinique Pasteur à Toulouse, depuis 5 ans à la direction de la clinique. Bonjour Dominique Pont.
Bonjour.
Vous êtes à la tête de la deuxième clinique de France. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'un directeur de clinique? Quel est votre rôle?
Un directeur dans une clinique, c'est quelqu'un qui est une sorte de domestique, vous voyez, au service des praticiens, au service des professionnels de santé, au service des patients. Quelqu'un qui doit être au service, voilà, pour que les choses tournent bien, pour qu'elles tournent de façon éthique, qu'elles tournent de façon responsable, voilà.
Vous êtes le chef d'orchestre.
Chef d'orchestre au service, voilà.
Médecin, au départ?
Non, je suis pas médecin.
Pas forcément.
Non, je suis un ingénieur, moi, à la base, voilà.
Vous étiez dans le domaine de la santé ou quel est votre parcours? Comment êtes-vous arrivé à la tête de la clinique?
J'ai travaillé longtemps dans le domaine industriel, figurez-vous, dans un secteur qui n'a absolument rien à voir, qui était la lutte antiterroriste. Et à 30 ans, je dirigeais une équipe de 10 000 personnes dans le monde. Je m'étais installé dans différents lieux dans le monde et j'étais en train de devenir un petit con. Donc j'ai souhaité repartir de zéro et redonner un sens à ma vie professionnelle, en repartant à la base et en repartant comme informaticien de base dans un hôpital. Et c'est comme ça que petit à petit, je suis rentré par le terrain, très humblement, dans le domaine de la santé, et que petit à petit, voilà, je suis devenu aujourd'hui directeur général d'une très grosse et très belle clinique.
Mais la santé, ça vous parlait, c'est pas un hasard d'être arrivé dans le secteur de la santé. Ça faisait sens pour vous?
C'est jamais un hasard d'aller dans la santé. Quand on veut soigner, on se soigne aussi un peu soi-même, évidemment. Ça faisait sens pour des questions très personnelles et très romantiques. Donner un sens à sa vie, ça avait plus de sens pour moi de travailler pour soigner des gens que pour construire des voitures ou des avions. C'est tout bête.
Qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui à la clinique Pasteur? On sait que vos équipes sont à la pointe de la technologie, notamment en cardiologie. Est-ce que ça, vous en avez bien conscience? Vous y travaillez au quotidien? Vous arrivez à innover?
Alors, ce que je crois, la force, c'est surtout une force de valeur. Le principe de base de la clinique Pasteur, c'est que c'est une clinique qui appartient à ses médecins. Mmh. On est sur un projet qui est avant tout médical, qui n'est pas un projet financier. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de cliniques qui sont rachetées par des fonds d'investissement internationaux, qui sont vraiment jugés, je ne veux pas être dans une logique péremptoire et qui jugerait, mais en tout cas, chez nous, la logique, elle est d'abord médicale. Donc, tout ce qu'on développe comme projet, tout ce qu'on engage comme ressources doit être au service d'un projet médical. Et les médecins sont actionnaires de la clinique Pasteur. Donc, vous voyez, il y a 150 médecins. Ouais. J'ai 150 patrons, moi. Vous voyez? Mais tout bénéfice, depuis 60 ans que la clinique existe, tous les bénéfices sont réinvestis dans l'outil de travail. Il n'y a pas de distribution de dividendes. Mmh. Ça veut dire qu'il n'y a pas de logique financière derrière. Tout argent gagné, économisé, est au service de l'investissement dans des primes au personnel, dans de l'investissement dans l'outil de travail et dans l'innovation. Donc ça, c'est la base pour créer quelque chose, pour créer un projet, une forme d'idéal d'entreprise de santé éthique. Et l'autre point clé, c'est la culture de l'innovation. Et l'innovation, elle se développe au travers de la confiance et de l'amour dans les gens. Tout simplement. L'innovation, ça naît d'un désir humain, d'un être humain qui a envie de créer quelque chose. Donc tout le modèle de Pasteur, ça date d'avant moi, donc j'essaye de le mettre au goût du jour, mais c'est de faire confiance dans l'humain, dans les soignants, dans l'aide-soignante, dans le brancardier, dans la personne qui va faire la plonge à la cuisine, de l'aimer, de lui donner confiance et de lui laisser la possibilité de créer. À partir de là, ça fourmille d'initiatives, ça fourmille d'innovation. Et c'est ça notre modèle.
Vous êtes très bien perçu par les salariés de Pasteur. J'ai mené une petite enquête. Ils disent que vous êtes proche d'eux. Vous êtes d'accord avec ça?
Vous savez, je reste très humble, hein, voilà. Donc, je cherche pas à être bien perçu. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est d'essayer d'être quelqu'un d'intègre, de loyal et de donner toute ma vie, tout mon cœur, toute mon âme pour cette clinique et pour ces gens-là. Donc, concrètement, par humilité, ben, j'ai commencé par aller sur le terrain. Donc, à peu près tous les deux mois, je fais une immersion dans un service. Donc, je suis allé, passer la monobrosse avec les femmes de ménage. Je suis allé brancarder. Je suis allé faire des toilettes au lit avec des aides-soignantes. Et sur le terrain, j'ai vécu des expériences auprès des salariés, des professionnels de santé, qui sont des sortes de héros pour moi du quotidien, qui sont des expériences magnifiques. Je pourrais vous citer des exemples beaux à pleurer de choses toutes simples qui se font humaines sur le terrain. J'ai le souvenir, par exemple, de deux aides-soignantes qui m'ont demandé de les accompagner lors d'une toilette au lit d'une patiente, qui est une patiente très algique, Alzheimer, qui ne pouvait plus s'exprimer, qui avait mal. Et on faisait une toilette au lit. Il m'apprenait à faire une toilette au lit. Et pendant deux minutes dans le silence, j'ai assisté, j'ai participé du mieux que je pouvais, très humblement, je suis pas un professionnel de ça, à une toilette au lit. Et au bout de deux minutes, les aides-soignants m'ont regardé de façon très malicieuse et m'ont dit, vous qui nous parlez toujours de confiance, d'amour, d'investissement dans l'humain, est-ce que vous avez remarqué que cette patiente a confiance en nous? Et là, très humblement, je leur ai dit, moi, j'ai pas remarqué. Et ils m'ont dit, mais regardez, ses muscles sont relâchés. Elle ne parle pas, mais elle nous aide. Regardez, elle se tourne. Et cette dame, maintenant, elle a confiance en nous, comme vous, vous nous dites que vous avez confiance en nous. Et cette confiance, on l'a gagnée d'une façon très, très simple. On l'a gagnée ce week-end, en lui lavant les cheveux, en la coiffant pendant deux heures, on lui a redonné sa dignité. Ça, pour moi, c'est ça, une entreprise. C'est ça, la santé. Et c'est ça, le métier de manager. C'est être témoin de belles choses faites par les gens de terrain qui sont les héros du quotidien. Je pourrais passer trois heures à vous raconter tout ça, tellement ça me passionne.
Vous leur dites ça à vos salariés, ceux qui vous accompagnent au quotidien?
Du mieux que je peux, de mieux que je peux. Alors, on est dans une entreprise, on a des contraintes économiques, etc. Donc, j'essaie d'être le plus transparent pour que tout le monde soit responsable. Mais toute belle chose et toute personne qui a envie de porter une initiative humaniste au sein de la clinique, je fais tout pour l'aider du mieux que je peux.
Alors, humaniste, c'est un mot qui nous plaît beaucoup. On l'a bien senti, vous êtes un homme engagé. Vous avez créé Eternesia il y a peu de temps. C'est votre bébé, votre association. Vous souhaitez que chaque humain se constitue une mémoire numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De quel constat êtes-vous parti? Et je pense que là, le mot humain et humaniste va prendre tout son sens.
Alors, je précise d'abord que ça n'a absolument aucun rapport avec la clinique Pasteur. C'est un projet
que je porte à
titre personnel, que j'ai en tête depuis que je suis enfant. Maintenant, j'ai l'âge d'assumer le ridicule et peut-être les clivages que peuvent porter un projet de ce type. Ça part du constat suivant. Ce projet part du constat suivant. Ce qui me frappe le plus dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est que je vois toujours pas arriver le grand projet humaniste de notre époque. C'est-à-dire un projet qui utiliserait les outils et les technologies d'aujourd'hui pour recentrer sur l'être humain, pour le sanctuariser, pour le sacraliser, l'être humain. Je le vois toujours pas arriver. Alors, ce qui est frappant, c'est que la révolution technologique d'aujourd'hui, et on vit dans cette époque-là qui est un bouleversement majeur pour l'espèce humaine et la civilisation humaine, c'est le numérique. Ouais, je pourrais développer ça. Et c'est une révolution qui est au moins aussi déterminante que celle de Gutenberg et de l'imprimerie. Mais alors que l'imprimerie a été clairement à l'origine de l'essor des droits de l'homme, du siècle des Lumières, de l'humanisme, je ne vois toujours pas en quoi la révolution du numérique, d'Internet, a apporté quoi que ce soit qui puisse s'apparenter à une forme d'humanisme de notre époque. Ce qui me frappe aujourd'hui...
Les réseaux sociaux, Facebook, tout ça...
En gros, si vous voulez, le monde d'aujourd'hui, le monde numérique nouveau, le monde qu'on vit aujourd'hui et qui va se développer, qui aura un impact considérable sur la civilisation humaine, ce monde du numérique, il est dirigé par une poignée de gens dans la Silicon Valley qui, eux, ne sont pas de tradition humaine. Ils sont de tradition libertaire. Et en guise d'humanisme, eux, ils poussent la technologie très très loin avec une pensée qui est plutôt transhumaniste. C'est-à-dire transformer l'être humain, brancher le cerveau sur Internet, bidouiller l'ADN à l'envi, nous faire vivre des centaines d'années, nous faire devenir plus grands, plus beaux, plus forts, plus heureux. On nous présente tout ça comme une forme d'apanage de la modernité, une sorte de planche de salut pour l'humanité. Moi, franchement, ça me fait peur. Franchement, ça me fait plus penser aux alchimistes nouveaux, là. C'est un petit peu comme si les nouvelles technologies avaient remplacé la bave de crapaud, la graine d'hélébore, mais c'est exactement le même obscurantisme. Et donc, moi, aujourd'hui, Je nous reproche, nous Français, nous citoyens français, nous les anciens citoyens du pays des droits de l'homme, les anciens révolutionnaires, d'être devenus des petits bourgeois passifs et dépassés, incapables d'éclairer le monde d'aujourd'hui avec notre tradition de pensée humaniste. Donc on laisse faire, un cinquième de l'humanité sur Facebook, c'est-à-dire des serveurs avec détenus par des boîtes commerciales qui aujourd'hui peuvent faire commerce de la mémoire humaine. Aujourd'hui, Google, qui a des programmes clairement transhumanistes pour transformer l'espèce humaine, aujourd'hui, nous les Français, on peut faire la moue à la française, un petit peu intello, mais on est incapable de porter un projet porteur de sens qui soit à nouveau révolutionnaire. C'est ce qui me fait râler aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'il faudrait concrètement? Parce qu'on sent que vous vous enflammez, vous êtes passionné par ça. On parle de la mémoire, mais est-ce qu'on parle de quel type de mémoire parle-t-on?
Si vous voulez, moi j'essaie de revenir aux fondamentaux de ce que c'est être... Quelqu'un qui est dans une pensée humaniste. Uh-huh. Pour un humaniste, à mon avis, la valeur d'une vie humaine, c'est inestimable. Une vie humaine, c'est une combinaison génétique pratiquement impossible à reproduire, suivie d'une succession d'expériences, d'émotions, de rencontres, elles-mêmes impossibles à reproduire. Donc, pour un humaniste, une vie humaine, c'est plus rare que le plus rare des métaux rares et c'est plus précieux que la plus précieuse des œuvres d'art. Donc, à ce titre, la mémoire d'une vie humaine, en tant que manifestation tangible d'une vie humaine, on ne peut pas le galvauder, ça ne peut pas être un bien marchand. Ça doit être sanctuarisé, ça doit être sacralisé. Et à ce titre, aujourd'hui, on a les moyens de considérer que la mémoire volontaire de chaque être humain, on pourrait l'inscrire au patrimoine de l'humanité. On a les moyens techniques, on vit le siècle et l'époque où c'est devenu possible. Donc moi, je me dis, aujourd'hui, il faut qu'on réinvente un nouveau droit de l'homme, qui est le droit à la mémoire, à la postérité, qui aurait comme corollaire aussi le droit à l'oubli, mais qu'on redevienne acteur du monde d'aujourd'hui plutôt que de subir. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que votre mémoire à vous et à moi, celle qui va perdurer dans 150 ans, c'est tout ce qui est écrit sur vous et moi, sur Google, sur Internet, parce que ce sont des traces en quelque sorte indélébiles. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se réapproprie cette question-là, parce que c'est une question de civilisation humaine.
Alors, qu'est-ce que vous proposez? Quels sont vos rêves, concrètement, avec Eternesia? Qu'est-ce qu'on peut faire?
Mon rêve, mon idéal, et je suis plutôt quelqu'un de têtu, donc je lâcherai pas l'affaire parce que c'est vraiment le projet d'une vie. C'est le projet, c'est l'aboutissement de ma vision de ce que c'est être un être humain aujourd'hui au 21e siècle. L'idéal, ça serait que ça puisse émerger de France, cette idée. C'est-à-dire qu'on puisse soumettre à débat citoyen cette question-là. Qu'on puisse dire, est-ce qu'on va continuer encore longtemps à confier nos mémoires, la mémoire des gens, l'intimité des gens sur des serveurs en Californie dont on ne sait pas ce que ça va devenir? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mobiliser autour d'une question, poser la question d'un droit international, un nouveau droit de l'homme, qui serait le droit à la mémoire, à la postérité, le droit à l'oubli? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se pose la question d'une instance internationale avec une gouvernance démocratique, avec un cadre éthique précis, pour dire cette question-là, on ne peut pas la confier à des boîtes commerciales? C'est un bien qui est un de nos biens les plus précieux à la mémoire des êtres humains. Si vous voulez, ce qui me choque aujourd'hui, c'est que si vous prenez par exemple les êtres humains du XXe siècle qui passeront la barrière de la postérité à 1000 ans, il y aura à coup sûr Hitler et Staline. Il y aura pratiquement personne parmi les millions de gens qui sont morts dans les goulags ou dans les camps. Alors tant qu'on avait l'alibi de la limitation technologique qui rendait impossible cette conservation de la mémoire, on pouvait accepter qu'un tri s'opère, une forme de darwinisme social avec les élites qui perdurent et le reste étant oublié. Aujourd'hui, que c'est concrètement aujourd'hui possible de le proposer, comment on va continuer à trier et selon quels critères? Moi, je pense que c'est une vraie question éthique qui pose un nouveau principe d'humanisme adapté au monde d'aujourd'hui. Parce que imaginez que ça existe. Le rapport à l'histoire serait modifié, puisque ce serait un droit de chaque être humain que d'écrire une partie de l'histoire humaine. Ce ne serait pas quelque chose réservé aux élites. Depuis que vous seriez petit, à l'école, on vous dirait, bien voilà, la mémoire des êtres humains, c'est un de nos biens communs les plus précieux. On essaie de se le transmettre de génération en génération. Mais toi aussi, si tu as envie de transmettre quelque chose, tu as toute ta vie pour réfléchir à ce que tu veux donner, à qui tu veux le donner, comment tu veux le donner. Mais si tu décides de donner quelque chose avec ton libre arbitre pour la communauté des hommes, c'est sacré. Cette façon d'aborder les choses, aujourd'hui, à mon avis, replacerait ce qui se passe autour du numérique, du transhumanisme, dans une vraie perspective humaniste. Ça serait en fait une sorte d'altruisme qu'on entérinerait à jamais dans une forme d'un don qu'on fait à ceux qui vont nous succéder. Ça serait l'inverse de la pensée transhumaniste, qui est une forme de narcissisme poussé à l'extrême, où on veut durer 1000 ans, on imagine qu'on va devenir immortel. Je crois fondamentalement qu'il faut reposer un principe liée au monde d'aujourd'hui. Et ce monde, et à mon avis, la question de la mémoire humaine, la mémoire des individus, sera au cœur du grand projet humaniste du 21e siècle.
On va en reparler dans un instant, vous restez avec nous. À tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Merci d'être avec nous sur Radio Présence, seconde partie de cette émission avec Dominique Pont, directeur de la clinique Pasteur à Toulouse. Jean-Marie Fehrenbach, bonjour, un de nos référents éthiques sur Radio Présence. Et donc, première question à notre invité, Dominique.
Oui, bonjour Doris. Alors, moi je suis très impressionné devant le développement de la clinique Pasteur, que je passe quelques fois devant, j'y ai été patient comme beaucoup de Toulousains. On a l'impression d'un développement assez systématique depuis des années. Et qu'est-ce qui fait le secret de Pasteur, à votre avis, vous qui en êtes le responsable aujourd'hui, comme directeur, qu'est-ce qui fait cette capacité de se développer? Est-ce que c'est une réponse à une attente? Est-ce que c'est une stratégie particulière? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de la dimension des hommes à l'intérieur? Il y a 150 médecins, c'est donc une très grosse boutique, hein, et beaucoup de personnel autour. Quel est le secret, Pasteur?
Enfin, il faut rester humble, hein, vous savez, rien n'est jamais gagné, rien n'est jamais acquis. Ce que je crois, c'est... Pasteur, c'est 1300 personnes, mais c'est 1300 personnes... Même si tout n'est pas rose, bien sûr que chaque jour il faut réinventer son métier, se re-questionner, se remettre en question. C'est 1300 personnes qui sont à la recherche d'une forme d'idéal d'établissement de santé, qui progresse, qui essaye d'être dans l'excellence, qui essaye d'être dans l'innovation, qui essaye d'être dans l'éthique, qui essaye d'être dans une vision responsable de ce que c'est qu'être un établissement de santé. Cet idéal, il existe depuis 60 ans. Donc d'année en année, à force de construire cet idéal, ben les choses s'accumulent petit à petit. Quand les médecins disent « on renonce à toucher des dividendes », c'est très fort. Ça veut dire que tout euro gagné va être réinvesti. Quand on dit « le personnel a la capacité de porter des projets », ça veut dire que démultiplié à l'échelle de 1300 personnes, vous imaginez le nombre d'initiatives qui peuvent être portées. Mmh. Ensuite, le rôle d'un management ou d'un directeur, ben c'est d'essayer de guider un petit peu. Mais si on libère les énergies humaines, il y a toujours de belles choses qui se passent.
Vous voyez l'entreprise par le j'allais dire par un prisme assez particulier, c'est-à-dire vraiment celui de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, vous soutenez au sein de Pasteur des start-up, vous engagez, vous invitez chaque salarié à donner des idées. Et comment ça fonctionne justement au sein de Pasteur? C'est un mini incubateur?
Alors, on a créé un incubateur de start-up aujourd'hui. Voilà, on a une douzaine de start-up à notre actif. Parce qu'il y avait la volonté de salariés qui avaient envie d'être dans l'innovation, qui pensaient qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer dans le secteur de la santé, parce qu'on avait envie de faire marcher notre écosystème local, parce qu'on avait envie d'être engagé dans le monde d'aujourd'hui. Donc dans la mesure où on laisse ces portes ouvertes et on dit ça fait partie de notre culture, ça fait partie du projet de l'entreprise que de permettre ça, les choses se passent naturellement, les gens viennent vers vous, des initiatives secrètes. C'est ça le secret, c'est tout simplement croire dans les gens. Voilà.
Ouais, toujours la même chose. Ce fil conducteur là qui vous anime. Mmh. Vous avez des exemples à nous donner de start-up qui sont nées chez vous, qui fonctionnent?
Alors, une start-up que j'ai bien connue, puisque c'était à l'origine pour ça que j'étais venu à Pasteur, pour créer un dossier patient informatisé. On a créé une start-up qui aujourd'hui est le dossier patient informatisé de référence en France. Voilà, une autre start-up qui travaille pour l'hospitalisation à domicile, qui s'appelle MHCOM, avec des Toulousains, des gens de chez Friskel, des ingénieurs qui avaient été virés et qui sont venus me voir me disant « on voudrait se réorienter dans la santé, est-ce que vous auriez pas une idée ?» On a travaillé sur la coordination des soins à domicile et aujourd'hui ils sont une référence en France. C'est une nouvelle start-up qui est venue nous voir il y a pas longtemps, voilà, deux jeunes qui s'appellent Boubacar et Lassina, voilà, ivoiriens et sénégalais, qui ont envie de créer une carte vitale pour l'Afrique. Ils ont besoin d'appui et on va les aider. Voilà. Et ces projets, ils arrivent, ils se développent parce qu'on laisse possible ça. Voilà.
C'est ça, ouais, tout à fait. J'aimerais que l'on revienne sur votre bébé, votre projet Eternesia, dont on parlait en première partie de cette émission, celui d'inscrire notre mémoire au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà qui vous inspire, Jean-Marie.
Oui, je suis impressionné parce que, comment dire, les moyens techniques deviennent peu à peu gigantesques, hein, je suis d'accord avec vous. Et je partage aussi un peu avec vous le fait que les orientations vers lesquelles on oriente leur emploi ne sont pas très très séduisantes. Je le comprends très très bien. Mais Je pense quand même qu'il y a beaucoup à faire pour arriver à transformer ce dont on dispose en quelque chose qui ait une consistance humaine méritant d'être effectivement gérée et conservée et valorisée. Est-ce que vous avez creusé un petit peu plus le comment ?
Alors le comment, aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai ce projet en tête, ça fait des dizaines d'années que j'ai ce projet en tête. Donc aujourd'hui, on a créé une association, on a rédigé un livre blanc pour poser les principes éthiques et la route qu'on pourrait prendre. Un projet comme ça ne peut s'envisager qu'à une échelle internationale, dans un cadre éthique précis, avec des partenariats, type UNESCO par exemple. Mais que ce sujet d'un nouveau droit de l'homme et de l'inscription de la mémoire de la mémoire de tous les êtres humains au patrimoine de l'humanité soit saisie et soumise à débat public. Aujourd'hui, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est qu'on subit et qu'on laisse faire. Alors plutôt que d'être dans une posture toujours fermée par rapport à la technologie en disant on craint la technologie, moi ce que je pense c'est que la bonne façon d'appréhender c'est de redonner une forme d'enthousiasme à partir d'un grand projet qui nous inscrirait dans un destin commun. Donc aujourd'hui je suis très, très humble par rapport à ça, je suis le petit colibri de Pierre Rabhi mais j'essaie de faire ma part. Ma part c'est idéalement d'essayer de réveiller ces consciences-là pour qu'on soumette cette question-là à minima à débat public. Ce que je crois, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une organisation internationale qui se pose la question de ce patrimoine-là, le patrimoine de la mémoire de chaque être humain. Que des sociologues, que des philosophes, que des gens bien plus qualifiés que moi puissent se saisir de cette question-là, que les hommes politiques puissent se saisir de cette question-là. Aujourd'hui, rendez-vous compte, Facebook détient 1/5 de la mémoire des gens. On ne sait pas ce que ça va devenir. Techniquement, c'est devenu possible. J'enrage de voir qu'on ne considère pas ça comme un de nos biens communs pour la communauté des hommes, précieux et qui doit être sanctuarisé. Donc aujourd'hui, le mode de gouvernance, il faut que ce soit un mode de gouvernance internationale, démocratique, soumis à un contrôle éthique. Type UNESCO, bien sûr, ou type ONU, bien sûr que je le verrai peut-être pas de mon vivant, mais ça va arriver, et aujourd'hui je pense que ça serait magnifique que de France émerge cette idée.
Et qui va vous aider concrètement? Vous allez vous battre tout seul? À qui allez-vous vous adresser?
Alors on essaye de saisir le monde, les gens de terrain, on essaye de saisir les intellectuels, on essaye de saisir les politiques, on essaye de faire une forme d'ouverture, de débat citoyen autour de cette question-là. Moi je suis allé sur le terrain, ouais. Pour tout vous dire, je suis allé rencontrer par exemple des sans-domicile fixe, j'ai passé un petit peu de temps avec eux pour savoir ce qu'ils penseraient d'une idée comme ça. Si ça existait la possibilité pour vous de transmettre quelque chose qui serait conservé dans la mémoire des hommes, est-ce que ça compterait pour vous? Mais évidemment qu'ils ont dit que ce serait magnifique, c'est même plus important que d'avoir un toit, c'est même plus important que d'avoir à manger, parce qu'on les considérerait à nouveau comme des êtres humains, avec une forme de dignité. Sanctuariser ça, alors que peut-être pour l'élite qui a déjà satisfait son ego en étant dans la postérité, peut-être que ça n'a pas d'importance, mais pour une grande majorité des hommes, être considéré comme quelqu'un de sacré au sens de la communauté des hommes et avoir cette possibilité de donner quelque chose qui soit conservé et sanctuarisé, je pense que c'est de nature à donner un nouvel élément de sens et à redessiner un projet dans lequel on pourrait s'inscrire collectivement. Et aujourd'hui, concrètement, c'est faisable. Mmh, c'est faisable techniquement. Je suis sûr que le cadre éthique il peut être construit par des gens dans le monde, il y a des tas de gens capables de construire ça.
Mais chez Google, ils pourraient faire ça, par exemple. Ils pourraient s'en emparer.
Mais il faut, justement.
Vous ne voulez pas.
Mais justement, c'est l'inverse qu'il faut porter. C'est l'inverse qu'il faut porter. Pour moi, si ce principe-là était posé à un niveau international, dans les réseaux sociaux, tout ce qui se passe sur Facebook, sur Google, le béaba serait que vous puissiez dire cette donnée qui est sur moi dans Facebook, qui est sur moi dans Twitter, dans tel ou tel réseau social, celle-là, je clique, elle doit être détruite parce que je ne souhaite pas qu'elle perdure après ma mort. Celle-là fait partie de ma mémoire, mais c'est moi qui l'ai choisie. Et si elle fait partie de ma mémoire, elle est sanctuarisée dans un lieu avec une organisation qui peut avoir un petit peu de garantie en termes de pérennité, bien sûr, et en termes d'éthique.
Jean-Marie, une autre question.
Oui, alors moi je suis très très impressionné parce que je pense que vous êtes sur une idée qui effectivement ne peut pas se transformer en réalité en quelques jours, hein, mais qui effectivement est un appel à toute une population d'humanistes qu'il faudrait arriver à identifier, rassembler, etc. Et je pense que vous êtes en train d'essayer de répondre à une attente que... Ce que vous dites de la part des SDF ne me surprend pas. Hein. Bon, le problème de chacun, c'est quand même de rester digne et qu'on puisse le considérer. Hein. Donc je ne suis pas surpris, mais je suis émerveillé et stupéfait. Et je me dis, mais il faut que vous trouviez des ressorts autour de vous pour vous aider à progresser. Non, mais ça me paraît une voie extrêmement intéressante.
Vous êtes à l'écart de toute idéologie politique, religieuse.
Ah oui.
Mais
évidemment.
Est-ce que vous devriez voir notre président de la République?
Si j'ai l'occasion de pouvoir lui parler, je le ferai avec plaisir, ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr, mais j'ai pas besoin d'incarner quoi que ce soit. Moi, j'aurais fait ma part de citoyen et d'être humain si l'idée émerge. Si l'idée émerge, que ça soit repris par des gens plus qualifiés que moi, des penseurs, des politiques, des gens spécialistes de technique, des grandes associations, des fondations, j'aurais fait mon boulot. Un projet comme ça, il doit pas être incarné par un être humain, ça doit être un projet collectif.
Tout à fait, voilà. Tout à fait. Ne serait-ce que de le dire, de mettre le doigt dessus et de faire prendre conscience aux gens.
Ce qui est effrayant aujourd'hui quand même, c'est que cette idée-là, elle a pas émergé aujourd'hui dans le monde. Vous avez aujourd'hui les gens dans la Silicon Valley, notamment Google, qui a lancé un gros projet qui s'appelle Total Recall, où aujourd'hui leur fantasme, c'est de capturer toutes les ondes cérébrales pour les mettre sur des puces de silicium pour recréer une âme humaine. Mmh. Non mais il faut arrêter ça, quoi. Il faut arrêter ça. Mmh. Il faut qu'on ait un projet qui soit un contre-feu par rapport à ça. Et ce projet, il doit redonner la place au libre arbitre, à la liberté d'un être humain. Et la mémoire de ce qu'on veut donner aux autres êtres humains, c'est ça profondément l'humanisme. Et notre tradition humaniste est universelle à la française. Il faut à nouveau qu'elle éclaire à nouveau le monde d'aujourd'hui. C'est ça, en fait, mon appel.
Votre appel sera entendu, on l'espère. Faites appel aux médias également.
Oui, je suis toujours un peu frileux par rapport aux médias parce qu'on ne sait jamais comment les choses sont transformées. Puis je déteste cet effet de mode.
Oui, je comprends.
Et donc moi, je veux construire quelque chose dans la durée qui ne soit pas juste un effet de mode à la parisienne où trois jours après, on passe à autre chose.
Bien sûr, mais il faut en parler.
Bon, j'essaierai du mieux que je peux. Peut-être que je ne le fais pas assez bien aujourd'hui.
Si c'était parfait, merci Dominique Pont. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous, Jean-Marie Fehrenbach. Vous souhaitez nous joindre, réagir à cette émission, nous poser des questions. Nous sommes là pour vous répondre. entreprendre@radioprésence.com.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre. Une émission en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.